Les nuits de France Culture. Les nuits de France Culture. Une mémoire radiophonique.
Une œuvre dont le seul nom fait rêver. Le Crocrodrome de Ziguepus. Le 1er juin 1977, 6 mois après l'inauguration du Centre Pompidou à Paris, le public put admirer, voir, entendre et même emprunter cette gigantesque sculpture mobile en forme de train fantôme et aux allures de rhinocéros, conçue par le sculpteur Jean Tinguely. Il était peu après l'invité d'une après-midi de France Culture proposée par Pierre Descargues et Sylvie Andreu. Après un reportage recueillant la réaction de collégiens face à l'œuvre en construction, puis celle du public au moment de son inauguration, le sculpteur suisse en racontait la genèse et disait son amour des machines ou encore son admiration pour son ami Yves Klein. Il évoquait pour finir la fontaine qu'il venait de terminer à Bâle et qui rappelle celle qu'il réalisera 5 ans plus tard avec Niki de Saint-Phalle, juste à côté du centre Pompidou et qu'on peut encore admirer aujourd'hui. Jean Tinguely, invité d'une après-midi de France Culture, diffusée pour la première fois le 27 juin 1977.
Après-midi de France Culture, bon après-midi. L'invité du lundi, le sculpteur Jean Tinguely jusqu'à 16h30, prise de son Nicole Dalmar, Marie-Françoise Simon, Gérard Reynaud, Patricia Latté. Je signale les musiques de Bernard Parmegiani, Pierre-Henri et Robert Altaber. La mise en page est d'André Mathieu. Après-midi de France Culture, tous les jours du lundi au vendredi, notre nouvel horaire, 14h45, 17h30, pour vos critiques, vos suggestions, une adresse, pièce 8716, maison de Radio France, Paris 16e, et pour intervenir en direct dans le programme, un nouveau numéro de téléphone, je le répéterai deux fois, 224 32 63, 224 32 63, en PCV, si vous n'habitez pas la région parisienne.
Ils nous ont déjà lancé dans une civilisation tellement infernaliste qu'on ne sait plus, comment faire pour trouver des solutions. On ne sait plus comment faire pour arrêter la machine. On est dans la situation de l'apprenti sorcier, ça c'est clair. Mais je voulais juste dire, naturellement, constater. Voilà les révolutionnaires. Ils ne s'appellent pas tellement Jean-Jacques Rousseau. Ils s'appellent Denis Papin.
Jean Tinguely, sculpteur, 52 ans, citoyen suisse, domicile, quelque part il a bien une demeure, mais il n'y est jamais. Il habite les chantiers où il travaille. Homme de chantier, les mains brûlées, les muscles d'un métallo, Jean Tinguely, dans cet après-midi que nous passerons ensemble, va proposer la revanche de l'ingénieur sur l'écrivain. Homme de machine, dont on se demande si elles sont pour ou contre le machinisme, Jean Tinguely va nous faire visiter sa galerie des hommes illustres. Ce sont Otto von Guericke, Denis Papin, Volta, Faraday, les vrais révolutionnaires. Ensuite, il ira vérifier ses idées sur la machine, bonheur ou malheur de l'homme, auprès du futurologue de Salzbourg, Robert Jung. Jean Tinguely est un sculpteur du mouvement, un sculpteur qui compose des spectacles. Aujourd'hui, on le rencontre au centre de Paris, au Centre National d'Art et de Culture Georges Pompidou, avec le Crocrodrome de Ziguepus. Une immense ferraille où on circule en wagonnet comme au train des fantômes. Une bonne partie de l'art actuel est faite pour la fête, on appelle ça happening dans les milieux distingués. Des happenings, Tinguely en a toujours fait. En 1960, dans les jardins du Museum of Modern Art, il a construit son hommage à New York, une machine autodestructrice commandée par le clavier d'un piano. La même année, à Paris, Tinguely a organisé dans la rue un cortège de machines qui, tout en circulant, faisait des peintures, faisait des sculptures. En 1962, dans le désert du Nevada, là où les États-Unis expérimentaient leur bombe atomique, il construisit une sculpture monstre, autodestructrice, dynamique et agressive, qui avait pour titre « Fin du monde ». En 1964, à Lausanne, des roues géantes à 10 mètres du sol, des bielles, des mouvements réguliers, c'était l'enseigne de la Suisse en son exposition nationale. En 1966, avec Hudvelt et Nikit Saint-Phal, il organisa à Stockholm, dans l'intérieur d'une nana gigantesque, des parcours à surprise, à glissade, et dans le sein gauche, il y avait un bar où l'on buvait du lait en regardant la Voie lactée. En 1970, une de ces machines explosait à l'heure voulue sur le parvis de la cathédrale de Milan. Ensuite, sur le toit du pavillon français à l'exposition internationale de Montréal, il releva le défi sexiste et construisit des machines agressives qui pourfendaient les incravables nanas de Nikit Saint-Phal. Depuis janvier, avec le sculpteur suisse Bernard Luginbühl et Nikit Saint-Phal, Tinguely travaille au Centre National d'Art et de Culture Georges Pompidou à la construction du crocrodrome de Ziguepus, une attraction foraine dans un musée. Au niveau du musée, c'est un événement. Au niveau de l'attraction foraine, on va bien voir. Sylvie Andreu a suivi pour nous la gestation du crocrodrome. Le 12 mai, Tinguely travaillait. Il y avait autour de lui des collégiennes de Meaux, la capitale du Brie, en déplacement culturel.
Ben, je trouve pas ça tellement joli, hein. Je vois pas ce que ça représente. On dirait du plâtre, des jambes cassées, je sais pas.
Non, c'est plutôt du fer, hein. Moi, je trouve... Enfin, c'est pas mon genre, hein. Je suis née ici, mais c'est pas mon genre à ça.
On est venu ici parce qu'on y était obligés, hein, de toute façon.
Mais pour vous, c'est une œuvre achevée ou...
Non, pas achevée.
Elle est en cours de fabrication.
Oui, voilà.
Ah, qu'est-ce qui lui manque?
Peut-être que si elle était un peu plus complète, ben, ça ferait peut-être plus joli.
Des couleurs aussi. Il y a des couleurs.
C'est vieux. Et faire
non,
tout.
C'est moderne.
Ça fait penser à des blocs de glace.
C'est du moderne.
Et vous pensez que c'est un... C'est une création, c'est une œuvre d'art qui a sa place à Beaubourg.
Ah bah oui, parce que c'est bizarre. Hein.
À Beaubourg, oui, puisque oui, il y a d'autres...
Parce que c'est un peu le même genre, hein, je trouve.
Il y a beaucoup de choses bizarres comme ça.
Et comment est-ce que vous imaginez l'auteur de cette œuvre?
Barbu.
L'artiste.
Barbu, tout petit, un peu fou.
Un peu vieux.
Non,
pas de cheveux sur la tête.
Un grand nez, des grandes dents. Non, bizarre, parce que pour avoir des idées comme ça, enfin, faut déjà avoir l'idée, hein.
Mais vous dites, c'est bizarre, c'est pas joli. Vous pouvez vous expliquer? C'est
parce
bizarre,
que
pourquoi
pour nous, parce que pour
par
nous,
rapport à quoi?
Par rapport à ce qu'on voit dans la rue, les autres objets d'art, c'est pas, je trouve que c'est pas pareil. Hein.
Comme nos musiques. C'est du quelqu'un de jeune qui fait ça, quelque chose de moderne. Plutôt quelqu'un de jeune.
Alors là, il y a deux écoles. Hein. C'est quelqu'un de jeune, c'est quelqu'un de vieux. C'est...
Oh, entre les deux, quoi.
Comme c'est moderne. Moderne, jeune, hein. Enfin, si. Je sais pas, moi, mon idée.
Hein. Alors, ça ne vous fait penser à rien de connu de vous?
Quelqu'un de connu?
À rien de connu, à aucune œuvre connue déjà.
Je ne vois pas ce que ça représente.
Ça va représenter.
Oui.
Qu'est-ce que ça représentera une fois que ça sera terminé?
Je peux pas dire.
Un bateau.
Le voir finir. Hein.
Un bateau. Un bateau détruit. Les voiles.
La vague. Une vague, je ne sais pas.
Bah oui, écoute, un bateau détruit, regarde toutes les voiles. Hein. Je ne sais pas.
Vous voulez parler?
Je trouve que c'est pas tellement bien, j'aime pas. J'aime pas tellement. Ça n'a rien de... D'après vous, ça représente quoi?
C'est qui pose des questions maintenant.
Bah... Oui, d'après vous, qu'est-ce que ça représente?
Ah, plein de choses à la fois, oui.
C'est peut-être un monstre.
Un monstre.
Ouais, un monstre. Alors, un monstre qui serait né de l'imagination de quelqu'un?
Oui, certainement.
Un monstre, parce qu'entre les dents, on aperçoit un crâne. Regardez, là.
Là,
non,
il y a un
crâne.
Bah, tu vois, ça doit être un truc un peu. Je sais pas, une.
Ouais. Pardon, monsieur, c'est vous qui avez fabriqué ça?
Je sais, oui.
C'est vous, c'est vrai?
Et qu'est-ce que ça représente?
C'est bon, moi, tout seul, j'ai mes amis et collaborateurs.
Vous pouvez nous dire ce que ça représente alors?
Là, actuellement, c'est pas très visible encore, mais ce sera un crocodrome, si on l'appelle crocodrome, ce sera comme une espèce de monstre. Qui a comme une espèce de maladie sur le dos, qui sera très mécanique et qui aura plein de mouvements. Et c'est en principe un train fantôme.
Et au départ, vous avez pensé à faire un monstre ou bien vous avez fait ça
On voulait un monstre.
On voulait, disons,
en quelque sorte, faire quelque chose qui amuse les enfants. On voulait faire un truc. Je sais bien que c'est pas seulement un travail.
Peur. Quel genre de
ça fasse peur. Eh bien, je sais pas non plus, je vois pas bien. Ce serait une espèce d'horrible rhino. S'il y a un côté rhino, mais les rhinos n'ont pas de dents. Et ce sera en même temps quand même un méchant requin. Et ce serait une espèce de. Finalement, un fossile. Il serait très fossilisé.
Vous avez mis des couleurs dessus, non?
Non, on veut laisser fossiliser. On veut faire une espèce de truc insensé comme on est au muséum, mais en animation. Et on veut que ce soit une chose de cauchemar, un peu. Je crois que ça va. Un des auteurs, qui s'appelle Nikki de Saint-Phalle, elle a déjà rêvé de ça, alors c'est bon.
Vous allez y mettre un mécanisme dedans, non?
Il y a plein de mécanismes dedans, et dans le train fantôme, il y aura un train fantôme un petit peu.
Alors?
Oui, tout bougera, oui.
Ça va faire peur.
Espérons-le, oui.
Ça va être bien.
Oui, mais pour construire les gens de leur peur, on va lui faire un cul en chocolat.
C'est un quoi?
Un cul en chocolat.
C'est quoi un cul?
Un cul
en chocolat. Un cul
en chocolat.
J'ai compris un cul. C'est alors, comme ça que vous voulez amuser les enfants?
On va voir si ça marche, hein, je sais pas. Mais je crois que déjà rien que l'idée du chocolat marche très très bien.
On vous aidera.
Pour le chocolat. Et les trains fantômes, c'est bien, c'est pardon?
C'est de quel âge à peu près?
Aucun âge, le vôtre.
Le petit?
Non, ou le vôtre.
Ça fera plutôt
mais nous,
peur.
On n'a pas peur.
Mais ça sera ici que ça va se passer, ça?
Dans combien de temps ça va?
On essaye d'ouvrir le 1er juin.
Et ça sera fini d'ici le 1er juin,
juin
oui, c'est un train fantôme.
Et ça sera ici
bien.
Que ça se passera.
Oui, on ne le transporte plus ailleurs. D'ailleurs, ça me paraît peu probable qu'on puisse encore le transporter en vitesse.
On pourra rentrer dedans.
Oui. Il y aura deux escaliers, une escalier d'accès, une escalier d'évacuation dans laquelle on monte et on prend les chariots. Les chariots, ce sont...
Après, on bougera là-dedans.
Les trains fantômes, oui. Parce que c'est...
Oui, ça...
Eh bien, nos chariots, ce sont deux requins, c'est des gueules de requins, simplement la bouche ouverte d'un requin dans laquelle on s'assoit. Et trois baleines. Avec une petite queue, mais avec la gueule grande ouverte et avec des méchantes dents également là-dedans, ça soit. Et on fait le trajet dans le train, dans le noir.
On va monter dans les baleines.
C'est on rentre dans la baleine et on se promène dans le crocodrome. Oui.
Et dans le monstre, là, il y aura des surprises, non?
On va essayer d'en faire, oui, mais je dois le faire un peu. Comme je n'ai pas d'expérience de ce genre, il faut l'inventer. Et il faudrait aussi qu'on ne fasse pas trop peur aux gens. Moi, je ne sais pas où sont les limites. Je ne voudrais pas que les gens tombent dans les pommes.
Ah oui, parce que...
Et les enfants, surtout, je sais pas qu'est-ce que supportent les enfants d'aujourd'hui.
On est courageux, je pense.
Courageux.
Ça dépend de quel âge à quel âge.
Oui, justement.
Ah, vous n'avez plus peur maintenant?
Non. Surtout cette fille là, elle est courageuse, faut voir. Elle est tellement courageuse.
Alors, c'est lui l'artiste.
Ah, ben on voyait une barbe, nous.
On croyait que c'était un jeune, hein.
Non. Quoi
mais c'était un jeune.
On voyait pas comme ça, on voyait qu'une barbe chauve. Grande dent, grand nez.
Non, mais elle croyait que c'était un jeune.
Bah oui, parce que c'était
parce qu'on avait
un truc moderne. On aurait dit un espèce de
quoi,
schéma.
Un prolo normal, quoi.
Hein?
La majorité des gens ne m'identifient pas comme un artiste, me prennent pour un ouvrier. Il y a même des gens qui me demandent à moi.
Si vous rencontrez comme ça, je ne pensais pas que c'était vous.
Oui.
Et pourquoi? À cause de quoi? Qu'est-ce qui vous gêne?
Travail, peut-être.
Déjà en bleu, on aurait cru un simple ouvrier. Je suis en train de réfléchir comme les autres peintres.
Un simple ouvrier,
on dirait.
C'est bien.
Et à moi-même, ça m'arrive de temps en temps qu'on me demande si j'ai pas vu Tingeli. Et à moi, on me demande c'est l'artiste. Moi, je m'appelle Tingeli. Alors, il y en a qui arrivent et qui me demandent, vous avez pas vu Tingeli? Et ils me le demandent à moi en me regardant et qui me connaissent. Comme je suis sale et que je suis camouflé en prolo, ils me reconnaissent pas. Je peux répondre, non, il est pas là. Je demande à mon collaborateur, t'as vu Tingeli? Et il dit non. C'est très bien. C'est un camouflage merveilleux d'être habillé en ouvrier. Mais c'est pas un camouflage, c'est l'habit de travail nécessaire pour travailler la ferraille. Parce qu'on soude, il ne faut pas que les étincelles vous rentrent dedans. Vous voyez, on a ça aux poches pour pas, quand vous soudez à l'électricité, pour pas que vous commenciez à brûler. C'est un équipement tout à fait approprié.
Comment ça, tout le truc en ferraille, ça va être recouvert ou quoi?
Non, on le laisse assez brut, mais il y aura un néon devant qui dira le crocodrome de Zygippus.
Alors les gens nous verront à l'intérieur.
Oui.
On verra à l'intérieur.
Oui. On tourne autour, vous voyez, c'est dans ce forum, on verra plus ou moins certaines choses clairement et d'autres on verra moins.
Zygippus. Il y a une bande de dessins animés qui s'appelle comme ça.
Il y a une bande de dessins animés qui s'appelle comme ça. Et c'est un joli nom, premièrement. C'est un nom de farce. Et je ne voulais pas imposer aux enfants, que je suppose être notre première clientèle, parce que c'est eux qui auront la priorité, des noms d'artistes compliqués comme Lou Ginbulg, qui est un des auteurs, Nicky de Saint-Phal, et Jean Tinguely, c'est trop compliqué. Zigepus, c'est plus facile. Et comme on a aussi voulu un nom simple, d'abord on voulait l'appeler Cacadrome, mais on nous a déconseillé de faire ça, et j'ai dit, bon d'accord, si on ne peut pas faire Cacadrome, alors on fait Crocodrome. Et on voulait l'appeler Crocodrome, mais j'ai vu que les enfants n'arrivent pas à prononcer Crocodrome, ils disent Crocro. Crocodrome, mais on a pris un nom que les enfants gardent immédiatement, pour en quelque sorte l'intégrer plus dans le monde. Il a tapé dessus pendant une demi-heure, à présent il a quand même besoin de prendre son chalumeau.
Bon, on va vous laisser alors. Hein.
Merci beaucoup. Mais là, vous devez revenir, vous êtes de Paris?
Non, on est de Meaux, on est venu en car, et puis oui. Notre car nous attend.
Ça marchera tout l'été et tout l'automne.
Vous
reviendrez parce que...
J'aimerais essayer ça.
Vous pensez qu'à Meaux, ça surprendrait les gens de Meaux?
Parce qu'il n'y en a pas de trucs comme
de manière,
ça.
Ils n'auraient pas de place pour le faire. Je pense pas où ils le mettraient.
Bon, on pourrait faire ça sur une place.
Sur la place Henri IV.
Ça n'est pas un défi de votre part que d'utiliser dans un endroit comme Beaubourg où triomphe le neuf de la vieille ferraille, des matériaux de récupération.
Oui, dans l'idée de... Ah non, c'est pas l'idée, c'est une nécessité budgétaire. J'ai pris de la vieille ferraille parce que c'est la seule chose qui est bon marché. En plus, elle est aussi solide que du matériel neuf. En plus, je l'ai louée, c'est de la ferraille louée. Pour 30 centimes le kilo, on ne peut pas avoir de la ferraille à 30 centimes le kilo. Les IPM comme ça, ce n'est pas possible. Et je voulais en quelque sorte utiliser mon budget aussi bien que possible. Et pour le faire rationnellement, il ne fallait pas que je dépense exagérément de l'argent sur des éléments qui, au fond, n'ont pas d'intérêt, comme les structures portantes. Et il faut quand même qu'ils soient très solides. Même si l'œuvre a un caractère éphémère, il faut que ça tienne, comme pour toujours. Parce que nous avons des milliers d'enfants qui vont arriver là. Alors, nous avons aussi adopté un point de vue de collaborer avec la sécurité de Beaubourg pour faire ça conforme aux habitudes de la maison. Pour ne pas... On n'a pas simplement amené une œuvre ici, on leur a dit « débrouillez-vous ». C'est à vous de jouer pour voir la sécurité. Je me suis occupé personnellement de la sécurité énormément. Ça m'intéressait, c'était nouveau. Et j'ai appris à la même occasion à dépenser mon budget, par exemple, pour du bas voltage. Il a fallu que les moteurs se fassent bobiner sur 42 volts. Les interrupteurs sont 12 volts.
Votre conscience professionnelle vous a même entraîné jusqu'à la préfecture de police,
oui.
Non?
J'étais pendant une heure et demie à la préfecture de police. C'est-à-dire la préfecture de police, c'est ce sont des ingénieurs qui ont une grande expérience en catastrophe tout genre. Et qui savent exactement ce qu'il faut faire pour que ce soit bien fait. Et ils vous le disent d'avance déjà. Et j'ai beaucoup appris en faisant les concessions mécaniques et techniques qu'ils m'ont obligé à faire. Mais l'aspect anti-Beaubourg du matériel lui-même est bienvenu. Et moi, j'aime bien la vieille ferraille. Je trouve elle est plus sensuelle. Elle est certainement plus sensuelle que certaines structures à angle droit ou à diagonale que dans Beaubourg. Je ne dis pas que Beaubourg n'a pas son charme, n'a pas sa sensualité. Mais comme Beaubourg est là, il faut qu'on fasse quelque chose en anti-monde. On était bien obligé de trouver une solution autre que les structures qui habitent Beaubourg. Ce n'est pas facile pour un sculpteur pour venir face à cette immense sculpture qui est Beaubourg. Les architectes Piano et Roche aussi ils se sont bien amusés en construisant Beaubourg. Ils ont fait beaucoup de belles sculptures. Certains détails de Beaubourg sont très impressionnants. Et pour cela, moi, j'ai dû aussi trouver une solution autre, d'un chemin poétique différent. Alors ça, pas seulement moi, il y a justement le monde de Nicky, s'y prête à merveille. Tout son côté plastique est bon. Et on intègre tout ça ensemble. Il y a Lou Ginbulg qui ensuite va venir en travaillant plutôt sur des tuyaux, des tubes, mais différemment. Alors tordu et brun et rouillé encore. Ça va être, je crois, d'un aspect bien, sans pour cela se diluer dans... C'est quand même pas amorphe, ça prend une forme d'un monstre. Mais ça sera fait dans un aspect, je crois, sensuel.
Est-ce qu'on est ici en face d'une certaine forme de votre art organisée, harmonisée, aboutie?
Non, je pense pas. C'est plutôt un laisser-aller, mais peut-être je trouve des nouvelles façons de faire. D'ailleurs, il est certain que la technique est toujours nouvelle. J'apprends beaucoup en travaillant là. Je ne sais pas à présent ce qu'elle vaudra sur le plan expressif, point de vue de mon travail personnel, mais on va voir ça. Je ne cherche pas tellement à être expressif. Il faut que j'essaie de trouver. Je suis plutôt à la recherche d'un spectacle. Je pense un peu au-delà. C'est pour ça aussi qu'on donne un titre comme Crocodrome et qu'on fait du zigépuissisme.
Et vous attendez beaucoup de la réaction des enfants et de la lecture qu'ils vont faire de tout ça et de leurs émotions?
J'attends qu'ils auront du plaisir et qu'ils s'amuseront beaucoup, en toute innocence. Eux n'ont vraiment pas besoin de se rendre compte si, au-delà de quoi que ce soit, si c'est de l'art ou pas, vraiment ça, on s'en fout. Hein.
En tout cas, c'est la transcription, la traduction d'un univers, enfin d'une conception mécanisée et mécanique de notre époque, avec une part laissée au rêve et même à la cruauté.
Oui, peut-être, on va voir. Alors ça bouge, tout doucement. Je ne peux pas vous faire bouger, on est en train de transformer les roulements. Là. Le partie supérieur va se mettre à monter et descendre légèrement. Il y a les poissons sortent de la bouche pour rentrer dans le cul. Et il y a les deux escaliers qui sont à côté des pattes, là, un d'accès, l'autre d'évacuation. Il y aura un néon où sera marqué le crocodrome de Zygipus. Plein de petites attractions supplémentaires qui vont se faire sur le toit. Il y aura tout un grouillement comme ça sur son dos. Voilà l'aspect, il est simple, non? C'est pas compliqué comme truc.
Le 1er juin dernier, c'était à Beaubourg l'inauguration officielle. Pas d'enfants ce soir-là, mais des amateurs d'art et le chocolatier du Crocodrome.
Mais pourquoi est-ce que les adultes n'ont pas le droit au chocolat ?
Si, on y a le droit,
non,
bien sûr.
Les adultes ont le droit au chocolat. Mais on n'a que 2 tonnes de chocolat. Alors,
C'est-à-dire 8 mois. Hein. Alors, le problème, c'est qu'il n'y en aura peut-être plus assez.
Les adultes viennent. Je me permets de vous le dire, c'est moi qui ai coulé 1 tonne de chocolat là-dessus. Je vous dis, les adultes viennent avec des cornets comme vous avez vu, puis ils tirent là-dedans, c'est fait pour les enfants.
Vous avez pas vu,
j'estime, on vous dit, c'est pour les enfants. Est-ce que vous les croyez? Moi, je crois pas les adultes. J'en crois aucun. Je trouve ça ridicule, c'est tout. On en prend, regardez, ils laissent tomber par terre et on dit, c'est pour les enfants. J'estime, c'est pour les gosses. Ils viennent, c'est tout.
C'est vous qui avez coulé la tonne de chocolat?
Oui.
Comment est-ce qu'on procède?
Bien, vous savez, c'est la première fois que je l'ai fait et je pense que c'est la dernière parce que je pense pas une autre fois avoir l'occasion de faire une chose pareille.
Ça vous a apporté une émotion créatrice particulière?
Bah, une émotion, je ne critique pas, mais je pense que c'est... Je pense qu'il y a tellement de gosses dans le monde qui connaissent même pas ce que c'est que le chocolat.
Vous avez pensé aux enfants en faisant ça?
Oui, bien sûr, absolument. J'ai une fille qui en a mangé, bien sûr, dans toute sa jeunesse, elle a eu du chocolat, mais je pense que c'est du très bon chocolat de première qualité. Je pense que 3 tonnes de chocolat à 100 grammes par gosse, ça aurait fait quand même pas mal d'heureux, si vous savez compter.
Est-ce que vous trouvez que la réaction des gens est... enfin, vous honore, honore le travail que vous avez fait?
La plupart des gens qui ont entendu les critiques, quand j'étais sur mon élévateur, j'entendais les critiques, bêtes et méchants. Genre Akiri. Le mec, il est dingue. Qu'est-ce qu'il fait? Il est fou. Moi, je travaille, je suis commandé pour ça, j'ai fait. Les gens sont...
Le public de tous les jours de Beaubourg, enfin, on a vu que ça en disant, le chocolat, ça sert à quoi?
Ce chocolat a détourné la curiosité du
oui,
public.
Oui, quand même se dire que l'idée des trois artistes qui ont fait cette exposition est quand même un but pour les enfants.
Ça n'a pas détourné, non, je pense pas, non.
Puis il y a l'amusement du train fantôme, non, mais... etc. C'est vraiment pour les enfants, surtout le flipper, etc. Bon, bah, c'est quand même un attrait d'amusement plus que pour les adultes. La réaction est certainement différente envers un adulte, alors qu'un enfant va trouver ça amusant, etc.
Non, puis là, on est à l'inauguration. Si vous voulez, parmi les gens qui sont des curieux, il y a 9 personnes sur 10 qui ont parlé du chocolat. Et Tinguely était un peu irrité, on ne lui parlait que du chocolat. que votre chocolat est bon? Quand est-ce qu'il y a du chocolat? Est-ce qu'on en aura beaucoup? Je voudrais manger un bout de chocolat.
Est-ce qu'il y en aura pour tout le monde?
Exactement.
Si vous voulez, ce n'est qu'une partie de la chose. Bon, c'est l'idée de faire un palais du rêve à la fois pour les enfants et pour les adultes, bon, avec tout le côté quand même artistique qu'il y a dans la chose.
Maintenant, si vous permettez, je vais vous dire une chose. Ça fait 3 mois que je suis sur Pompidou, c'est-à-dire en décoration d'un côté et de l'autre. Eh bien, la critique est faite que par le français. Parce que les Allemands, les Américains, les Canadiens, tout ça, sont enchantés. Ils trouvent ça extraordinaire. Mais le français critique facilement. Et moi, en tant que français, je peux me permettre de vous dire, au départ, j'étais pas tellement enchanté du site extérieur et tout. Mais je trouve ça formidable.
Il est pas là, Tinguely, ce soir?
Oui, il est là.
Toujours camouflé, hein?
Toujours camouflé, un pour l'autre, ça va de soi.
Qu'est-ce qui ne marche pas ce soir?
Tout va très bien, on est juste en retard. On est en retard de 48 heures.
Ouais.
Parce qu'on a reçu les chariots enfin aujourd'hui. La firme qui nous a livré ça. Bon, ben, ça vous intéresse pas. En tout cas, ça marche, c'est bon. La vision est bonne et maintenue. Et j'ai de l'espoir que ce sera un truc qui va très bien fonctionner dans quelques jours. Et ceci avec les enfants. Je vous dis bonsoir.
Au revoir, à bientôt. On fait une émission sur Tinguely, là, qui est un des créateurs suisses de ce qu'on a sous les yeux.
Oui. C'est le développement de certaines de ses premières œuvres. Vous aviez vu, là, la première œuvre, le combattant avec un casque. Alors, le casque était au-dessus d'une sorte de canne. Alors, ça faisait toc, toc, toc. Alors, c'est le développement, ça, c'est la symphonie maintenant. À vous, madame.
Bravo.
Oui, ça vous semble aussi, madame, être un aboutissement dans l'œuvre de Tinguely?
Je suppose, oui, ça m'a l'air en tout cas très vaste, très immense et très perfectionné. En tout cas, c'est très amusant.
Oui, il y a quand même beaucoup d'humour là-dedans. Ça vous plaît? Ça vous plaît, mais je crois que c'est très difficile d'entrer là, enfin, d'emblée, d'apprécier. Si on connaît son œuvre, oui.
Oui, il faut voir beaucoup de choses.
C'est quand même une sculpture mobile.
Mais il n'est pas seul dans l'histoire.
Ah, peut-être. Oui, mais vous voyez, je suis mal informée. Là.
Oui, il y a une équipe Saint-Phal.
Ah oui, où est-ce que pourtant... Elle est dans le papier mâché, oui.
Ah bon? À qui on doit la tête.
Mais moi, je préfère le faire.
Oui, moi aussi.
Parce que déjà, c'est tellement d'un style rompu, alors encore le carton-pâte. Moi, je ne suis pas tellement pour le carton-pâte. Puis on... À vous, madame. C'est une belle amusette, hein, quand même.
Et c'est une belle analyse artistique en règle, en tout cas. Hein.
Ah, ben vous avez affaire à des artistes.
Pas. Moi, je suis dans la laine, hein. je suis calme. Je suis dans la tapisserie, alors je n'ai pas de bruit. J'aimerais bien faire une tapisserie monumentale
comme ça. Un volume, et puis alors en volume.
Formidable. D'abord, je suis refoulée d'une grande tapisserie. Alors lui, ça y est, maintenant, il est content, il est heureux, il se déploie.
C'est un aboutissement.
C'est tout à fait sa place et le rôle de centre Pompidou.
Il est là chez lui.
Oui.
Enfin, il est à sa place.
Tout à fait. Nous sommes d'accord. Bon, je crois qu'on a.
Merci, mesdames.
Le 8 juin, un mercredi, les enfants étaient là. Sylvie Andreu les attendait à la sortie du train fantôme.
Bonjour, monsieur fantôme.
comment ça s'appelle cette...
Crocodrome.
Cricrodrome.
Et toi, comment tu l'appelles?
Hein?
Approche-toi. Qu'est-ce que vous avez fait alors exactement dans le crocodrome?
On a fait une demi-heure pour rentrer là-dedans. Là. Il y a une méchante queue là-bas.
Mais ça vaut pas tellement le coup.
Pourquoi?
C'est moins marrant que moi, fantôme.
Non, par rapport à ce qu'on voit par exemple quand on va à la foire du trône ou quoi.
Il y a des choses qui font plus peur, mais alors là, ça va lentement, c'est vraiment pas mal.
Non,
c'est pas fantastique.
Non, c'est pas fantastique ça.
Comment c'était?
Bien.
Tu étais dans le train, toi?
Il y a des fantômes et tout.
Ouais, qui font peur. Pour de bon? Et pourquoi c'est amusant?
Parce qu'on croit qu'on va dans le mur et qu'on n'y va pas.
Et vous pensez qu'il faut être artiste pour faire ça?
Oui.
Il faut être beaucoup d'artistes.
Vous pensez que c'est beaucoup de travail?
Oui.
Vous pensez que l'artiste s'est réveillé un matin et puis s'est dit « Bon, ben, je vais faire quelque chose pour les enfants. » Et puis il a pensé à ça.
Non, premièrement, il a fait un plan pour voir comment ça va tourner, puis comment ça va faire les squelettes et tout. Puis après, quand il a vu que c'était bien, il l'a fait.
Tu sais comment ça s'appelle, ça?
Oui, le crocodrome.
Comment?
Le crocodrome.
Derrière ces sculptures à grand spectacle, ces grands spectacles sculptés, tantôt divertissants, tantôt inquiétants, ou les deux à la fois, que Tinguely a composé à travers le monde, de Stockholm à New York, de Montréal à Paris, le crocodrome, il y a une œuvre, il y a une pensée. Tinguely, qui en 1955 débuta auprès de Marcel Duchamp et d'Alexandre Calder, qui s'associa peu après au mouvement des nouveaux réalistes de Pierre Restany, avec Yves Klein, Armand, César Nikite Saint-Phal, entre autres, Tinguely dit ceci. L'unique chose stable, c'est le mouvement partout et toujours. Ce qui est fort n'est jamais stable, ce qui est fort est toujours vitesse et mouvement. Le définitif, c'est le provisoire. D'où les machines et ses rapports avec les machines, c'est de l'art. Après-midi de France Culture, il est 15h18, l'invité du lundi, Jean Tinguely.
Je suis bien avec les machines et pas bien. J'exprime une crise que nous avons peut-être nous tous avec la machine. Nous sommes tous en état de crise, c'est-à-dire en état de changer par rapport à la machine, et de changer le rapport avec la machine. La machine de Lausanne est devenue symbole du vide, symbole de piétiner sur place. C'est une machine qui est devenue le symbole des difficultés de ces temps modernes. C'était à l'occasion d'une exposition nationale suisse. Et c'était la seule chose absolument irrationnelle qui était dedans. C'était pas du tout l'ami des machines. C'était la machine inutile, c'était la machine inutile par excellence. Elle symbolisait parfaitement cette inquiétude qui caractérise le peuple suisse dans son industrie, dans son industrialisation forte, poussée, dans ce côté travailleur, ce côté... foncer, rationaliser les choses. Je crois que les Suisses ont été à l'avant-garde de l'inquiétude sur le plan, comme les Suédois ont été à l'avant-garde de certaines pour modifier certaines structures sociales. La Suisse et l'Amérique ont, disons, une nervosité par rapport à cette civilisation technologique qui est plus franche, plus simple qu'en France. En France, on le découvre presque, je ne veux pas dire plus tard, mais d'une manière différente, plus philosophique peut-être. Mais c'est pas aussi largement l'inquiétude. L'inquiétude est grande dans les pays industriels nordiques, dont la Suisse fait partie. Et cette machine de Lausanne, elle exprimait bien cette inquiétude. Elle était en quelque sorte le point sur le i de cette inquiétude. Elle était parfaitement, elle était une visualisation de cette inquiétude. C'était parfait. Et on n'a pas besoin de beaucoup de journalisme, il n'y a pas eu besoin d'intervention de beaucoup de mass media.
comme un des mortels, il était devant ça, il sentait, il venait de descendre l'usine, il allait à cette exposition, il restait cloué à cette machine, il sentait quelque chose, il sentait un rapport. Moi-même, je ne l'ai pas fait tellement en me contrôlant absolument. J'ai beaucoup hésité là aussi. Et je me suis comporté un peu comme un médium. Il est normal que je ne sais pas, je ne peux pas nécessairement bien expliquer mon travail, ce travail, cette machine. Mais je sais que j'ai vibré avec, que j'étais près des gens, j'étais près du peuple, j'étais près des ouvriers qui m'ont donné des conseils, d'ailleurs, souvent pour parfaire mécaniquement certaines impossibles choses que je faisais bouger. J'avais, par exemple, à cette époque-là, tout juste découvert qu'il existait la possibilité d'utiliser un roulement à billes. Je l'ignorais avant. Et j'écoutais les gars quand ils me suggéraient quelque chose. Alors, j'étais là, une éponge qui s'est pompée de l'ambiance du pays. Et j'ai reflété une image d'une inquiétude. Dans ce sens, cette machine n'a jamais été très rationaliste. Elle était le symbole de l'irrationnel, de nos rapports bizarres, douteux que nous entretenons avec les machines. Je parle de rapports que nous, nos civilisations technologiques, entretiennent avec les machines.
À Beaubourg, c'est différent.
Alors, Beaubourg veut être un peu une situation nouvelle. Il y a la rue qui rentre dans le musée. C'est plus l'art qui va dans la rue, c'est... Bon. Et là, je voulais accueillir en quelque sorte le public avec un art qui répond à la rue, qui est de nouveau la foire. Et c'est la foire, Beaubourg, en quelque sorte. Alors, je réintroduisais là. Je faisais refoire. Et je cherche quelque chose. C'est pas encore bien. Je suis pas vraiment tout à fait capable à l'heure actuelle de voir, d'expliquer ma vision. Mais j'ai une vision, j'aimerais essayer de la cristalliser, de provoquer sa réalisation en moi. Et je galvanise mes coopérateurs et collaborateurs et amis, bien que Louis Bull, lui, il a terminé sa partie, disons, et Nicky aussi. Et moi, je suis seul au milieu avec le tronc, je me débrouille et j'essaye de faire des choses. Bon, Nicky fait des choses pour l'intérieur, ils seront très bien. Et il en prépare une. Et elle va être très bien, très féroce, qui aura une grande force, un grand impact. Mais aussi, je dois parfaire des détails. Je dois m'occuper de beaucoup de détails techniques. Ça m'enquiquine un peu. C'est un peu compliqué. Je suis, disons, face à la technologie compliquée dans ce sens que tout est en bas voltage, qu'il faut faire attention à ce qu'on fait. On ne peut pas simplement faire n'importe quoi. Il faut que ce soit toujours un peu en accord avec la sécurité.
Ça, c'est les impératifs. Mais...
Les impératifs de Beaubourg.
Là, oui, mais tu as bien dit que c'était la rue qui entrait au musée, ça on comprend bien, mais là tu fais à nouveau une chose qui est un peu comparable à ce que tu as fait par exemple à l'intérieur des entrailles de la Houne à Stockholm.
Oui.
C'est une protestation, ça gueule, ça hurle, alors oui. qu'on te croyait un peu silencieux, réservé en Suisse. Et est-ce que tu peux dire là en quoi tu es différent? Contre ou pour?
Toujours équivoque, c'est l'équivoque avec moi, c'est toujours le pour-contre, c'est la question-réponse. Je laisse derrière moi comme un point d'interrogation. J'essaye pas de résoudre un problème, je n'y arrive pas. Et je suis à la recherche de quelque chose que je connais pas, évidemment. J'essaye pas de résoudre un problème, je suis pas capable à ça. J'arrive pas à préciser mon idée. Je la fais, je suis en train de la faire. J'essaie de dépasser un certain phénomène. Je sais pas lequel je cherche. Il y a aussi ce côté expérience. C'est carrément une aventure, une expérience. Bon, je me suis lancé dedans, je le fais, je continue, je vais voir ce que ça donne. C'est quoi?
Après-midi de France Culture, 15h24. Maintenant, la galerie des grands hommes de Jean Tinguely.
Biedermann, oui, c'était un moine.
Biedermann.
Biedermann.
Que personne, ça veut dire.
Non, ça veut dire, au fond, bon bourgeois. Et, ou, prudent. Non, bon bourgeois, ça veut dire. Et c'était un moine du XVIe siècle qui avait décidé de faire un choc. Je crois qu'il était déjà en réaction sur le protestantisme, c'est sûr. Il voulait purifier l'église, peut-être, je sais pas, il avait l'intention de faire peur aux gens. Il a écrit une pièce de théâtre, qui est un classique,
qui est une pièce de théâtre qui s'est jouée en Allemagne, en allemand, en latin d'abord, en Allemagne, en allemand ensuite, qui est comme sujet, un sujet assez terrible, assez détestable, c'est la mort. Et Biedermann a placé la mort au centre de sa pièce. C'est le personnage central, c'est le neutre, c'est le pôle, c'est la force cinétique puissante. À sa gauche, il y a Dieu, à sa droite, il y a le diable. Il dialogue avec les deux. Et toute la pièce joue dans ce dialogue. Et les bagarres entre Dieu et le diable. Les arguments de Dieu sont parfois aussi sophistiqués que ceux du diable. Et il y a toujours la mort au centre. Et la mort est la plus puissante, la plus forte. Et il le dit, c'est joué sobrement, c'est simple, c'est magnifique, c'est une pièce de théâtre extraordinaire. Et aussi extraordinairement agaçant, qui vous donne des frissons. C'est une pièce pour laquelle j'ai fait des décors à Salzbourg, dans des rochers, dans une énorme scène qui est à peu près la taille d'une scène de Kabuki. C'est 42 mètres de large. Et derrière, il y a des niches. C'était un endroit où on apprenait aux cavaliers à monter à cheval. Et c'est taillé dans la roche. Les galeries, il y a des galeries qui sont taillées en arc, qui sont taillées dans la roche. Et devant, il y a été aménagé un espace pour le public. C'est un background sensationnel sur lequel j'ai fait des machines qui étaient en fait assez neutres, mais avec l'éclairage, on pouvait tout faire. Mais ce n'était pas l'important. L'important pour moi, c'était la découverte de cette pièce et de cet écrivain même, qui était tout simplement une grande surprise. Je ne savais pas que ça existait. J'étais bouleversé par cette pièce. C'était sensationnel.
Mais Jean, quel est ton contact avec des œuvres anciennes comme ça? Tout d'un coup, tu découvres des gens qui te correspondent. Celui-là, en effet, c'est assez étonnant.
Oui.
Tu as une culture très développée, des choses anciennes ou pas?
Pas tellement, j'ai surtout une culture relative à l'art contemporain qui commence avec l'aventure de ce siècle. J'étais assez analphabète en ce qui concerne les anciens temps. Tout ce que je voyais des anciens, c'était leur cathédrale qui restait, leur ancien monument, parfois leur ancienne peinture, mais sans que je rentre dans leur jeu, je m'intéressais beaucoup plus à l'aventure d'aujourd'hui que de celle d'hier. Alors j'ai progressivement découvert, par exemple, une fois j'ai découvert Goya par l'intermédiaire de la télévision. C'était une émission de, je ne sais plus comment il s'appelle, Monsieur Drault. Il a fait des émissions sur des artistes. Et il a fait une sur Goya, et alors il avait ses camarades, et ses camarades avec lesquels il pouvait faire des close-ups sur une très célèbre chapelle que Goya a peint dans les alentours de Madrid. Et j'ai été impressionné par la puissance de cette peinture. J'ai vu que c'était encore un contemporain, bien qu'il avait vécu au début du 19e. J'ai dû bel et bien admettre que s'agissait d'une puissante peinture, fantastiquement bien faite, et très, très forte, très expressive. Voilà, j'ai découvert, par exemple, Goya par l'intermédiaire de la télévision, ce qui est un peu... ça fait pas sérieux, mais c'est vrai.
Est-ce que tu pousses pas un peu là, parce que...
Non, je pousse pas, c'est vrai.
Ouais.
J'avais seulement vu, soit feuilleté peut-être des livres de Goya, mais c'est pas la même chose. La caméra faisait des close-up, c'est-à-dire elle faisait des gros plans sur sa manière de peindre dans cette chapelle. C'était parfois peint avec 4 ou 5 traits de pinceau, c'était tac, tac, c'était fantastique, c'était hallucinant. Et j'étais évidemment voir ensuite cette chapelle, et on voit moins bien, parce qu'on est de nouveau un petit bonhomme. La caméra voit presque mieux que nous, c'était infernal. Mais après, j'étais au Prado, etc., je me suis gavé de cette peinture, surtout des tableaux, les derniers tableaux de Goya. C'était pour moi, à la suite de cette émission de télévision, que j'ai découvert Goya. Privé de culture, j'étais assez vite amené à fréquenter l'école des Beaux-Arts. J'étais à l'âge de 14 ans et demi, j'étais dans l'école des Beaux-Arts, et là j'étais immédiatement confronté avec ce qui s'était fait comme peinture, mais évidemment surtout la peinture et la sculpture contemporaine. J'étais mis vis-à-vis de Schwetos tout de suite, j'étais face à Arp, j'étais face à Calder, j'ai aussi un peu plus tard découvert Duchamp, mais j'étais surtout mis en vis-à-vis avec l'aventure de ce siècle. Et cette école, elle était orientée. Elle portait en elle l'esprit du Bauhaus. Il y avait, c'était pendant la guerre, il y avait pas mal de messagers, c'est-à-dire des profs, qui conservaient encore cet éblouissement des Kandinsky et Klee, et qui nous l'ont retransmis. J'étais trempé dans l'art contemporain. Et l'école même n'était pas du tout, pas tellement à la recherche de vous communiquer des détails sur Piero della Francesca ou sur Goya. Il s'agissait de nous, d'aujourd'hui, et de ce qui venait juste de se faire. On connaissait peut-être tout sur Picasso, mais peu sur le 14e siècle. Ce n'était pas le but de l'école. Cet enseignement que j'ai subi, parce que c'est un traitement, on est violé, on croit faire quelque chose déjà soi-même, mais on voit vite que celui-là l'a déjà fait, que, pardon, M. Harpe a fait cela, et M. Schmitt a ceci, et Oskar Schlemmer a fait ça, et on est mis en face sans arrêt. C'est évidemment un training colossal, c'est un training, c'est le bon mot, c'est un entraînement extraordinaire. Et je crois que ça donne une bonne formation, ça vous apprend. Ou si je devais bien apprendre à dessiner, j'étais très bon pour dessiner, pour le dessin. Le dessin avait un caractère très constructiviste. On ne se contentait pas à l'école de tolérer un dessin superficiel ou surfaciel. Il fallait que c'était en profondeur et que ça corresponde à la construction, par exemple, en ce qui concerne le corps de l'homme ou de la femme. Il fallait quand même que ça sente où sont les poids, où et comment ça fonctionne un être humain, où sont ses disponibilités physiques. Et là, ça vous apprend très très bien le métier. Moi, j'étais systématiquement ouvert. Et c'est que bien plus tard, j'ai commencé tout doucement à être en face des temps anciens, presque plutôt par les monuments qui datent d'une autre époque, et presque plutôt par l'architecture et la sculpture que la peinture d'abord. La peinture se trouvait dans les musées, elle était figée, elle était dans les cadres, elle était piédestalifiée, elle était muséifiée, quoi. Elle n'était pas si vraie encore. En tout cas, en ce qui concerne dans ma ville de Bâle, c'était comme ça. Et c'est plutôt par l'architecture que j'ai progressivement découvert l'existence de l'art ancien. Et l'existence ensuite, disons surtout de l'art pharaonique. Mais ça, il a fallu encore un long chemin jusqu'à ce que j'aille vraiment la compréhension d'abord de ce qui existe en communication photographique. Et c'est assez faible, la possibilité de communiquer la puissance de l'architecture par la photo n'est pas forte. Et là, l'image télévisée, elle est peut-être mieux, mais ce n'est pas suffisant. Bon, un bon documentaire peut vous tremper en Égypte, c'est sûr. Certains, oui, je suis sûr. Peut-être que c'est là aussi, encore une fois, une chose bizarre. C'est peut-être certaines émissions qu'on peut voir sur, par exemple, les Mayas. Une très bonne émission faite sur les Mayas, une très bonne émission sur les temples indiens, vous apprennent beaucoup de choses sur cela. Et pas nécessairement les revues d'art, tout en faisant par exemple un très bel article sur Gaudi. Je crois qu'il vaut mieux y aller ou il vaut mieux voir un bon film pour le comprendre. Et alors voilà, j'ouvre là, sur les temps passés, plutôt tardivement. J'y vais et je m'approche lentement. Et là, muni de ma compréhension et de mon amour pour la poésie plastique, je suis resté très sensible et finalement aujourd'hui je fais une liaison directe, elle est directe pour moi, entre des très très beaux tableaux de Kandinsky ou des merveilleux Mondrian ou disons Klee et l'art pharaonique. Il n'y a pas tellement de grande différence. J'aime les deux, j'aime beaucoup l'ancienne cathédrale, mais ce qui ne m'a jamais empêché non plus de rencontrer et d'aimer la beauté dans l'architecture de nos ingénieurs, que ce soit une raffinerie de pétrole ou un pont magnifique, et même l'art des architectes du 19e siècle, comme la construction de la tour Coquelin, la tour Eiffel, ou certaines réalisations liées à une certaine technologie d'époque, parce que ça a changé souvent. Là, il y a des réalisations plastiques impressionnantes, aujourd'hui et hier, qui sont faites par des ingénieurs, que j'ai toujours aimé, que j'ai toujours pu admirer, du point de vue plastique. Thank you.
Il y a un élargissement. Il y a un élargissement qui s'est fait. Et je crois que cet enseignement d'art contemporain a été un enseignement très rigoureux, très, très puissant et qui m'a marqué, ça c'est certain. Je sais qu'il y a d'autres artistes qui ont eu le même enseignement et ça ne les a pas empêchés, par exemple, d'aimer leur ancien. Je crois simplement que ça vous amène à vous sensibiliser plus et plus facilement, plus fortement, plus personnellement que si on vous met simplement devant des gloires de l'art. Et c'était très impressionnant pour moi de rencontrer des artistes que mes parents ne connaissaient pas du tout, évidemment, que mon entourage ignorait. Il est clair que Schwitter, ce n'était pas connu par tout le monde. Elle l'est encore, toujours pas, aujourd'hui. Et c'est merveilleux, et c'est un grand artiste, et je l'aime beaucoup.
Est-ce que tu es un artiste ou est-ce que tu es un ingénieur?
J'étais malheureusement toujours un artiste, et j'ai toujours rêvé, mais je n'ai jamais pu me passer des réalisations des ingénieurs. J'ai pratiqué le sport. Mon sport favori, c'est de prendre des moteurs qui n'ont pas été inventés, des moteurs électriques qui n'ont pas été inventés par moi, évidemment. Alors, ce sont des réalisations d'ingénieurs. J'ai toujours profité de leurs matériaux, de leurs inventions, de leur électricité, de leur capacité, de leur fantastique réalisation. Et évidemment, je leur ai joué des petits tours avec ce même matériel, mais je dépends fortement des ingénieurs. Et c'est tout évident que ce qui est caractéristique, mon œuvre, par exemple, elle marche toujours avec l'électricité. Il est clair que je dépends, comme tout le monde, dans le quotidien, de nos ingénieurs pour vivre. Actuellement, mon clan est un clan d'ingénieurs. C'est un clan qui a été réuni par Leibniz, qui était un Allemand, qui était professeur à Paris, qui a rencontré Denis Papin à Paris quand il avait 20 ans, qu'il était médecin. Mais il est parti, sous les conseils de Leibniz, travailler chez Boyle en Angleterre, qui faisait des recherches sur la création du vacuum, c'est-à-dire des recherches sur le vide avec des explosifs. Ces recherches étaient des recherches suivant les recherches de von Guericke, qui avait en premier, lui, essayé et osé faire le vide artificiellement, c'est-à-dire le vacuum. Le vacuum, à l'époque, était une discussion religieuse, comme d'ailleurs la création de toute la technique était une création religieuse, c'était une discussion de base. Est-ce qu'on peut, oui ou non, faire un vacuum? Est-ce que quand on a découvert pour la première fois, et ça c'est von Guericke, qui a découvert pour la première fois le phénomène électrique et qui l'a identifié, qui a réussi à le recréer avec ses boules de soufre, très célèbres, avec un mouvement, il a coulé une boule de soufre, il a mis ça en rotation, il a réussi à créer le phénomène électrique réellement. C'est-à-dire une forme, presque une forme de premier moteur électrique. Et 17e siècle. Et cet homme, ou 16e siècle, pardon. Et cet homme arrive à... Cet homme Guericke meurt avant, c'est une génération précédente, et c'est Leibniz qui conserve... et qui d'ailleurs double ses recherches. Il est contemporain à von Guericke, il est plus âgé, il rencontre le petit Papin, l'envoie chez Boyle, qui fait des expériences qui viennent de chez Guericke, qui continue, l'envoie chez Huygens en Hollande, Boyle est à Londres. Il crée Leibniz, tout simplement, une espèce de teamwork. Ils communiquent ensemble. Ces hommes ont une faculté fabuleuse d'avoir des visions sur l'avenir. Il faut se rendre compte qu'à l'époque, il n'y a rien. Il n'y a pas de fer, le fer étant une chose très rare. Il n'y a pas d'acier, il n'y a rien. Il y a des pompes extra-moyenâgeuses, plus ou moins utiles, qui sortent un peu d'eau, des trous dans les, qu'on doit faire pour creuser le fer. Le fer est très rare. Il n'y a pas de profil, il n'y a pas de tube, il n'y a rien. Niet. Il y a une insuffisance technologique absolue. Et Papin, Denis Papin, rentre là-dedans, doit pratiquement inventer tout, tout créer. Il est extrêmement habile, il est un bon artisan, un bon mécanicien. Il est directement génial, il faut bien lire. Et il est très vite en face de quantité de problèmes pour essayer de résoudre toutes ces difficultés, pour essayer de trouver des solutions aux difficultés qu'il a. Il va très vite. Il travaille chez Boyle à Londres et en Hollande. Et finalement, il arrive, quand il veut rentrer en France, il ne peut pas parce que le roi de France a aboli les édits de Nantes. Et le roi de France, d'ailleurs, avait fait justement une installation assez farfelue qui s'appelait la machine de Marly, qui est beaucoup plus poétique qu'autre chose. Ils sont occupés par des artistes, des immenses roues, il y avait 16 ou 18 roues, une incroyablement grande, qui avait chacune un diamètre, je ne sais pas, de 18 mètres, qui pompait à peu près autant d'eau qu'un petit engin diesel pomperait aujourd'hui pour arroser tous les jardins de Versailles. Le roi de France avait les moyens de faire des choses impossibles, les autres n'en avaient pas ces moyens. Et de ce fait,
Leibniz a convaincu le margrave von Hessen, le margrave de Hesse, de faire venir Denis Papin à Marbourg pour qu'il lui fasse un petit peu des pompes comme ça pour faire en meilleur marché ce que le roi de France faisait d'une façon moyenâgeuse avec des milliers d'ouvriers, un gaspillage de poids infernal, un ridicule résultat pour faire monter l'eau quelques mètres et il avait déboisé à peu près une région aussi grande que toute la région parisienne. Et Papin s'est mis au boulot. Il a sur le champ, Denis Papin, en Allemagne, et ça déjà, il avait eu la première vision, il avait eu ça à Londres, il a immédiatement inventé le moteur à explosion. Il n'a pas perdu son temps, comme on peut lire dans le dictionnaire français Larousse, où il est dit que Denis Papin a soi-disant inventé la marmite dite de Papin, et ça se termine là, il a bricolé aussi sur un sous-marin. C'est pas du tout le bonhomme en question. Denis Papin a, et ça se lit dans les lettres, dans les échanges de lettres qui existent encore entre Leibniz et Denis Papin, ils ont une vision de la technologie qui est une technologie libérant l'homme. Ils veulent faire la machine pour libérer l'homme de son état d'esclavage dans lequel il était. Ils ont une vision idéaliste. Ces ingénieurs, et ce sont les premiers vrais ingénieurs, ont une vision qui est tout à fait sociale. Ils sont certains qu'ils vont modifier la société. Et en fait, ils vont réussir. Plus qu'on croit, et peut-être un peu trop, je ne sais pas. Mais Denis Papin et Leibniz réussissent assez vite, par exemple, croire que la technologie peut résoudre un très grand nombre de problèmes sociaux. Et ils ont des problèmes sociaux, pas seulement d'ordre religieux, ça c'est plutôt von Guericke. Denis Papin est cool et froid, c'est un protestant. Leibniz aussi, tout ça c'est d'ailleurs un petit clan de protestants, il faut dire. C'est pour ça qu'ils ne peuvent plus travailler en France, car en France on tolère seulement les catholiques, à l'époque. Et il y a une espèce de Mazzarini qui a fait un bricolage invraisemblable. Et alors à la suite de ce bricolage, il y a tous les mecs protestants qui ont été mis à la poubelle, ou ils ont été poussés au-delà des frontières françaises. Mais Denis Papin, lui, gratte à Marbourg, et il développe assez vite certaines choses. Il invente par exemple un tuyau, il invente le tuyau vraiment, qui tient une certaine pression, parce qu'il travaille avec la vapeur, le monsieur. Il compresse de l'eau, il chauffe de l'eau, et il fait monter des pistons. Alors il faut des tuyaux, il lui faut des tuyaux tout de suite, il faut des pistons, il faut des chemises de pistons. Et il cherche, il court, il va voir les gars qui ont fait des canons, parce que c'est les seuls qui pourraient peut-être lui forger des chemises de pistons. Il finit par en avoir. Mauvais, pas de bonne qualité, il n'a pas de segments, il n'a pas ce qu'il faut. Mais il arrive quand même à faire un va-et-vient. Et il obtient une compression et il obtient de la force. Et il est obligé évidemment d'inventer la soupape. Il l'invente. Il invente la soupape très vite. Aussi, l'homme est aussi devenu entre-temps un monsieur qui sait regarder avec quoi il travaille. Il étudie sa chaleur, sa vapeur qu'il provoque avec le feu, le chauffement de l'eau. Et il identifie la vapeur assez vite comme un gaz. Et il est l'homme qui découvre que la vapeur est en fait un gaz, et que ce n'est pas cette espèce de phénomène. La vapeur n'est pas du tout ce qu'on croit, c'est-à-dire un phénomène d'évaporation visuelle. La vapeur est toute autre chose, et invisible. Alors, il se charge aussi de résoudre une quantité non négligeable d'autres problèmes. Entre autres, il désigne aussi la force vapeur, c'est-à-dire le cheval d'aujourd'hui, que la désignation date toujours de Papin. Et c'est lui qui mesure, prend une mesure, c'est-à-dire avec une certaine force, on peut monter certains poids à une certaine hauteur. Ça, c'est le cheval qui nous sert aujourd'hui encore à identifier notre deux chevaux. Denis Papin, ensuite, il fait des choses aussi qui sont tout à fait dans son esprit. Il crée la cocotte minute. Et il l'a fait pour mieux conserver les aliments, pour sauver de l'énergie. Et c'est un écologue avant l'heure. Il pense qu'on pourra nourrir plus vite, plus de gens,
En cas de famine, il y a des périodes où il y a de la famine, on ne pouvait plus se cuire. Et l'appareil s'appelle, il prend un nom anglais pour ça, parce que M. Papin parlait l'anglais aussi, pas seulement l'allemand et le français. Et il l'appelle « digester ». Et c'est un mot qui est très moderne. Je trouve ça étonnant qu'il puisse inventer un mot pareil pour cette cocotte minute. Et je crois d'ailleurs que la cocotte minute va faire une longue carrière encore. Le procédé de cuire plus avec moins d'énergie, c'est-à-dire avec de la vapeur, pour mieux conserver aussi la qualité nutritive de l'aliment, c'est je crois, tout à fait dans l'avenir de l'homme. Ça correspond tout à fait à nos recherches actuelles. Cette chère cocotte minute, elle a fait un très long chemin.
Jean, est-ce que Denis Papin est un artiste?
Denis Papin, c'est un poète. Il a une attitude d'artiste. Il me plaît beaucoup. D'après des lettres, et des lettres que Leibniz a écrites à d'autres contemporains, Denis Papin parlait vite. Il s'embrouillait souvent. Il était enthousiaste. Il déconnait. Et quand il faisait ses expériences avec les explosifs, il y a de temps en temps ses maisons qui s'écroulaient. Il retournait dans les débris pour aller chercher sa perruque. Et leur santé, c'était un vrai fou, quand même. Mais je crois qu'il est déjà dans la trempe de ces ingénieurs qu'on peut voir encore aujourd'hui, que j'ai vu travailler quand ils ont lancé, par exemple, les satellites de communication dans New Jersey en 1960. Je crois que c'était le Echo 1, Echo 2, ensuite Telstar 1, Telstar 2. Les premiers satellites de communication. Et ça, c'est une chose qui, je crois, est très importante pour l'évolution de l'humanité. Et parce que ça concerne les communications internationales et intercontinentales. Et j'ai assisté à leur enthousiasme, de ces ingénieurs qui étaient de toutes les nations, c'était des teams, il y avait un Suédois, qui était particulièrement un ami à moi, qui s'appelait Billy Klubre, et il y avait des Américains, des Allemands, il y avait des Français, il y avait des Suisses, des Italiens, il y avait une bande de fous qui travaillaient là-dessus. À moi, ils m'ont donné l'impression d'une équipe assez poétique, bien que peut-être les résultats ne l'étaient. Et en fond, ils étaient poétiques. Echo 1 était très, très beau. C'était un immense ballon qui se gonflait seulement dans la haute sphère et qui reflétait des ondes qu'on lui envoyait. C'est les premières expériences de réfléchir une image dans l'espace aussi. C'était des choses qui étaient très poétiques, c'est toute cette entreprise de ces ingénieurs. Moi, j'étais très ébloui par ça. J'ai pris, moi, mon attitude d'être poétique et je trouvais que l'attitude de ces ingénieurs l'était aussi. Denis Papin, voilà un type pour lequel j'ai une admiration sans borne. Une admiration mesurée parce qu'en fait, on manque évidemment beaucoup d'informations. On manque un peu de renseignements à son sujet. Mais ce que j'ai pu savoir sur lui me plaît beaucoup et je comprends aussi que ces gens ont fait peur. Quand je pense que von Guericke, ça c'est l'homme qui identifie l'électricité pour la première fois, ça c'est l'homme qui crée le vide. Et sans vide, il n'y a pas de moteur possible. Cet homme, von Guericke, qui était en même temps un homme très grand, il était, je crois, entre autres, c'est maire de Magdebourg, d'une ville dont il a dirigé la reconstruction après une destruction dans une guerre des 100 ans. Von Guericke, c'était un homme qui a laissé des paroles derrière lui, dont des poèmes du rien. Il dit dans des... C'est pas des poèmes, mais c'est comme si c'était des poèmes de Yves Klein. Il parle du vide. Il dit que le vide, c'est la plus belle chose. Il n'y a que le vide, il n'y a que le rien, il n'y a que le néant. Rien en dehors du rien existe. C'est fabuleux. Évidemment, ça date de l'époque où il est à la recherche du vide, du vacuum. Cet homme a une attitude tellement effroyable, disons en quelque sorte, il fait peur. Je comprends que ces hommes ont fait peur. Daniel Papin a fait peur. Boyle a fait peur. Ils ont tous fait peur. Les ingénieurs vont continuer à faire peur. Et ce ne sera jamais un sujet de conversation très intéressant de parler d'électricité dans les salons. Ce ne sera jamais un sujet intéressant de parler d'énergie atomique, clairement, froidement. C'est difficile. Je crois que la preuve, par exemple, l'actuel président des États-Unis, qui était un spécialiste atomique, s'en est bien gardé de mentionner l'énergie atomique souvent. Il a beaucoup parlé cacahuète, il a joué l'homme cacahuète, mais en fait, c'est un spécialiste de l'énergie nucléaire. C'est bien la première fois, d'ailleurs, qu'un homme d'État, je crois, est à la pointe du pays avec une connaissance nucléaire complète, ce que Jimmy Carter a. Bon, ben, ce genre d'homme a compris qu'il ne fallait pas parler trop technique parce que ça barbe les gens, ça les ennuie. Et cette race des Guericke, cette race des Denis Papin, des Boyle, plus tard des James Watt, des Ampères, des M. Volta, de M. Faraday. Ça n'a jamais fasciné les gens. C'est devenu une espèce de truc non identifiable. C'est exagéré. Ou on les prenait pour des farfelus. Après, quand on a découvert que c'était des hommes qui avaient bouleversé le monde, on avait peur d'eux. On a rendu des grands hommages, mais je ne sais pas, ça ne devient pas des personnages réels. On préfère, nous, c'est-à-dire notre civilisation occidentale, on préfère de loin avoir un génie, avoir un grand artiste célèbre qui a fait de la bonne peinture. Et sur ses épaules, on met tout. On dit c'est lui qui a inventé la technique. Ça nous plaît énormément de voir ce visage du vieux Leonardo da Vinci avec cette longue barbe poussiéreuse, de voir ses yeux formidables, de cet homme sage, de penser que c'est un homme sage qui a inventé la technique. Ça plaît beaucoup que ce soit un homme poétique, un grand artiste qui a fait la Mona Lisa, qui a inventé tout. On met tout sur ses épaules, on simplifie. Et je ne suis pas d'accord avec cette attitude parce que je sais que, premièrement, il était un mauvais mathématicien, monsieur Leonardo da Vinci. Bien qu'il faisait semblant de faire des gags disant « sortez de mes cercles », etc. Il était en fait un homme qui n'a pas été un très bon copain aux mathématiques. Mais il avait une chose, il aimait la musique, il était grand, il était superbe, il était très beau, Leonardo. Et il avait une force de séduction énorme, il était sensationnel, et il faisait des jolis petits portraits de bourgeoises, et il savait vraiment bien s'affûter, et il avait un goût pour la musique qui est vraiment sensationnel. Il connaissait toute sa musique contemporaine. Et il y a des gens qui l'ont attaché à leur cour, pas pour tellement pour faire les portraits de famille ou de leur maîtresse, mais surtout parce qu'il connaissait si bien toute la musique qu'on connaissait à l'époque. Et il faisait venir des orchestres et des musiciens, il faisait jouer de la musique de grand goût, il était un homme de goût, c'est un homme sensationnel. Et les rois de France l'ont beaucoup aimé aussi. Et il était dorloté, et il reste dorloté, il n'a rien à foutre avec la technique, il a fait une espèce de bicyclette, il a inventé, je crois, une seule chose vraiment très sérieuse, il s'est occupé des canalisations de Milan. Et ça, c'est un travail d'ingénieur qu'il a fait, qui est pas mal fait. Et il s'est aussi inventé, il a fait un tourne-broche. Et that's it. Bon, je veux rester sur moi, je veux parler des choses que j'aime. Bon, j'aime Guericke, j'aime Denis Papin. Guericke et son vide. Et j'ai continué à aimer beaucoup Yves Klein. Et là, on n'a plus en face de nous un ingénieur. On est face à un homme fantastique, avec une vision hallucinante et géniale. Une vision de l'espace qui est beaucoup plus réelle que, disons, ces entreprises en bicyclette. Lui, il appelait les fusées des bicyclettes de l'espace. Et l'espace était une notion tellement immense, beaucoup plus grande. D'ailleurs, la notion de l'espace n'a pas été digérée encore. Je crois que, d'ailleurs, c'est quelque peu terminé, cette digestion. On a découvert que ce n'était pas si drôle de se promener sur une lune vide, qu'il ne se passait pas tellement de petits monstres verts sur Mars. On commence à se replier sur nous-mêmes. Je crois que c'est parallèle à tout le mouvement écologique qui s'est enclenché. Tout l'intérêt qu'on porte à cette terre, je pourrais m'imaginer que c'est un rapport avec la découverte de la solitude sur la Lune. Mais là, Yves Klein est plus fort. Yves Klein a une notion d'espace qui est absolue, qui est intransigeante et qui travaille avec une pensée tout à fait immatérielle. Et il te donne le vertige. Et il m'a souvent donné le vertige dans son absolutisme, dans son intransigeance de pensée et dans sa formidable force de donner la suprématie au vide. Et c'était une chose totale, absolument poétique, mais en même temps, je ne peux pas la séparer de l'attitude et des pensées de von Guericke. Et ensuite, il reste chez Yves Klein une œuvre, évidemment, un travail, des exemples, qu'il a lui-même traité comme les cendres de son action. Il a dit ça, je crois, dans une conférence, une fois, que considérait son travail, ses tableaux monochromes, ses empreintes, il considérait ça comme ses cendres. C'était comme un navire qui passe, et c'est les sillons qu'il fait dans la mer, c'était pour lui pas important. C'était ce qui comptait, c'était une espèce de vision qu'il avait, une espèce de folle vision, une spécifique vision qu'il avait sur ce que nous sentons en nous, par rapport à l'immensité de l'espace, par rapport à l'immensité de ces dimensions dans le vide, que nous commençons tout doucement à réaliser. Je sais qu'il y a des gens qui savent beaucoup sur l'espace, mais je ne sais pas s'ils ont la possibilité d'avoir des réactions poétiques de cet espace. Disons qu'il est fort possible qu'un homme comme Yves Klein puisse avoir une réaction par rapport à l'aventure spatiale de l'homme, qui est plus valable que les réactions probables des ingénieurs de Wernher von Braun, etc., comme il a été possible que Giacometti a été, en tant que Suisse, pourtant jamais dans un camp de concentration, a été certainement plus touché par l'atrocité des camps de concentration en Allemagne. C'est fort possible qu'un homme qui n'a pas souffert peut très mieux exprimer la souffrance que quelqu'un qui en crève dedans. Il est fort possible que quelqu'un qui est face à l'espace, par sa connaissance et par ses possibilités techniques, puisse au fond mal exprimer cette immensité et son aventure fantastique qu'il a devant soi.
Yves Klein à la Sorbonne, le 3 juin 1959.
Je veux terminer en rendant hommage à Werner Runau par ce poème mal traduit, je m'en excuse, du grand poète allemand Christian Morgenstern. Il y avait une fois une clôture faite de lattes de bois avec des espaces entre chaque latte afin de pouvoir y voir à travers. Un architecte vit cela et vint soudain un soir, prit cet espace entre les lattes pour en construire une grande maison. La clôture est restée là, ensuite très bête et stupide, avec ses lattes sans quelque chose autour. À voir, c'était horrible et ordinaire. C'est pour cela que l'autorité l'a retirée d'ailleurs, et l'architecte a pu s'enfuir en Africo-America. Ce sont les termes du poète. Werner Runau n'aura sans doute pas à s'enfuir, tout au moins je l'espère, car je pense que l'Occident européen comprendra la valeur de notre entreprise immatérialisante à temps pour vivre sans tarder dans le vierge, le vivace, le bel aujourd'hui.
Sensationnel. Je l'ai commencé à l'écouter, j'étais ravi. Je ne l'avais plus entendu, je l'ai entendu à la Sorbonne. Et plus jamais après.
Ah, c'est fini.
C'est superbe. Qu'est-ce que j'ai eu du plaisir. Ça, c'est important. Je trouve que ces hommes, von Guericke, Denis Papin, Boyle et Huygens, et Leibniz, ce premier teamwork, c'est le tout premier teamwork. Un teamwork, ça veut dire un groupe d'hommes qui travaillent à un but commun, avec cette vision de vouloir améliorer le sort de l'homme, de le libérer de l'esclavage, avec l'aide de la force, avec une force énergétiquement artificielle, c'est-à-dire avec la machine. Cette vision du début, elle va provoquer ensuite, immédiatement, l'éclosion de la machine. Ça va aller très vite après. Il y aura assez vite les Anglais. Ils vont se mettre au travail jusqu'au très grand James Watt qui fabrique avec Murdoch les vraies premières machines qui produisent de l'énergie avec lesquelles on va faire nos usines, avec lesquelles on va travailler. Et on peut me répondre, oui, et c'est à partir de là que commence le vrai esclavage. Je suis d'accord, c'est terrible. Mais en même temps, les hommes ont toujours cette vision de vouloir libérer l'homme de l'esclavage et ils produisent de plus en plus, je suis d'accord. Finalement, ça devient absurde parce qu'on fait des machines pour extraire plus de fer. Avec ce fer, on fait plus de machines. C'est la folie, c'est l'histoire de l'apprenti sorcier. Elle est dedans, je suis d'accord. Mais il y a une chose que je sens, et elle est forte, celle-là. Et je l'ai constatée en regardant, en réfléchissant sur eux, en les visitant, en les voyant, en lisant un peu, en m'informant dans la mesure où on peut s'informer là-dessus. Ces hommes ont bouleversé cette époque. Ils l'ont bouleversé énormément. Ils ont bousculé l'époque. Ils ont provoqué une révolution sociale après l'autre. Il n'était pas question, par exemple, d'abolir l'esclavage sans avoir des moteurs. On ne pouvait même pas abolir l'esclavage. On a pu abolir l'esclavage, on a pu introduire la pensée sociale à partir de l'énergie vapeur, à partir de l'électricité. Et c'est évident que c'est une pensée matérielle, mais elle est réelle. Je veux dire par là, les révolutionnaires ne s'appellent pas Marx, ne s'appellent pas du tout, comme on croit, Pierre-Joseph Proudhon. Ce sont des révolutionnaires. Dans le cas de Pierre-Joseph Proudhon, de toute façon, c'est pas tellement Bakounine qu'il faut admirer, c'est pas tellement Kropotkin, c'est pas tellement Jean-Jacques Rousseau, c'est pas tellement Voltaire. Les révolutionnaires, c'est des mecs comme Faraday, c'est des Volta, c'est carrément les Denis Papin. Voilà la phalanx qui ont bouleversé ces siècles et qui continuent à le bouleverser. Et il s'est ajouté à ces grands noms une innombrable quantité de noms qui, eux, vont continuer à nous mettre peut-être dans une chose terrible. Ils vont nous lancer dans une civilisation. Ils nous ont déjà lancé dans une civilisation tellement infernaliste qu'on ne sait plus
On ne sait plus comment faire pour trouver des solutions. On ne sait plus comment faire pour arrêter la machine. On est dans la situation de l'apprenti sorcier, ça c'est clair. Mais je voulais juste dire, naturellement, constater, voilà les révolutionnaires. Ils s'appellent pas tellement Jean-Jacques Rousseau, ils s'appellent Denis Papin.
Point de repère, Otto von Guericke, physicien et astronome allemand, né à Magdebourg en 1602, mort à Hambourg en 1686, auteur des fameuses expériences des sphères de Magdebourg. Denis Papin, physicien français, né à Blois en 1647, mort à Marbourg en 1711, inventeur de la machine à vapeur et de sa soupape de sécurité. Yves Klein, peintre français, dit Yves le monochrome, 1928-1962, homme de la couleur pure et du vide, auteur des sensibilités picturales immatérielles.
Pour moi, je suis pas nécessairement artiste, c'est la société autour de moi qui me donne une position comme artiste. Au lieu de me mettre dans un asile d'aliénés, elle me met artiste. Elle me flanque dans un musée, ça c'est la même chose. Au lieu de me défendre de travailler, elle me paye. Ça vient au même, c'est la même chose. C'est une forme d'annuler les choses aussi. D'être dans un musée, on est automatiquement annulé quand on est dans le musée. C'est une annulation comme une autre. D'être piédestalifié, c'est une catastrophe. D'avoir du succès, c'est une tragédie. Mais en même temps, je suis d'accord qu'on peut rien faire sans rien. Et je suis pour et contre. Je veux aller, j'ai tout fait pour aller dans les galeries, j'ai tout fait pour aller dans les musées. Et dès que j'étais dedans, je ruais dans les brancards et j'essayais de faire tomber les cerises. Mais en fait, on n'a pas le choix d'être artiste ou on l'est ou on l'est pas. Moi, je sais pas si je ne pourrais pas te dire si je suis un artiste. Je sais que je peux faire un certain nombre de choses par rapport à quelqu'un qui est en face de moi, que ce soit un enfant dans la cour ou un voisin ou une personne qui peuvent fonctionner. C'est-à-dire, il va rire, il va se fâcher, il va avoir une indigestion, il va me dire c'est de la merde, il va me dire c'est chouette, il va me dire c'est rigolo, il va me dire qu'est-ce que tu dois t'amuser alors que c'était parfois je me fais seulement chier en fabriquant mes trucs soi-disant pour amuser les autres. J'ai plein de difficultés, je suis nullement doué pour la technique, je suis mal foutu comme tout pour travailler, je sais encore aujourd'hui pas souder, je dois toujours finalement passer un autre qui vient souder mieux que moi pour que mes trucs s'écroulent pas, je suis pas dans le coup du tout. Bon, je travaille comme un forcené, j'ai de l'enthousiasme pour mon boulot de demain, et au fond je m'en fous du passé et de toute la quincaillerie que je laisse derrière moi.
Après-midi de France Culture, 16h04. Jean Tagli, je crois qu'il est l'heure maintenant de téléphoner à Salzbourg, en Autriche, pour entrer en rapport avec l'homme dont vous recherchez les idées sur la machine et le machinisme, le futurologue Robert Jung.
Jung va prendre un point de vue qui m'intéresse, je ne sais pas lequel est.
Alors, on va voir. Allez, on appelle Robert Jung. Allô ? Allô, Robert Jung ? Je vous passe Jean Tinguely.
Bonsoir Robert.
Bonsoir.
Comment allez-vous?
Je vais pas bien parce que je suis pas à Paris, mais je serai à Paris la semaine prochaine, en 10 jours.
Oui.
Je verrai encore l'exposition.
C'est un peu différent, c'est pas une exposition, c'est une construction que je suis en train de terminer. Et
voilà.
Qui est destinée aux enfants et un public un peu plus large. J'essaie d'élargir et de briser le cadre des expositions. Normal.
Voilà.
Voilà. Robert Jung, vous vous occupez intensément de nos conditions de vie, de nos visions, de nos réalités matérielles, de nos conditions psychologiques, parapsychologiques, sociologiques. Vous vous occupez du passé aussi, je sais. Vous vous occupez du futur. Vous êtes un futurologue. Et vous rêvez, vous pensez, vous vous interrogez, vous vous questionnez, vous parlez avec des collègues. Vous connaissez le problème de l'existence de l'homme probablement très bien. Et vous commencez quand même, à présent, je pense, à avoir une certaine vision sur qu'est-ce que pourrait être l'avenir. J'aimerais tout simplement vous poser la question simple. Est-ce que vous pouvez répondre positivement? Est-ce que vous êtes encore un positiviste, pas un optimiste, mais positiviste sur l'avenir et la condition de l'homme? Ou est-ce que vous avez une tendance pense avoir des pensées ou des, pas des pensées, des doutes, des intuitions négatives.
J'ai des doutes, je crois que chacun qui est un peu intelligent doit avoir des doutes parce que nous approchons des crises d'une façon vertigineuse, mais d'autre part, je suis optimiste en ce sens que je crois que l'homme a toujours très bien pu réagir au moment des dangers. C'est-à-dire l'homme, l'imagination de l'homme a été toujours plus forte que les crises dans lesquelles il s'est trouvé. Il a pu surmonter des crises, il a pu inventer un monde différent, il a pu changer de direction. Et moi je crois justement, nous sommes en train de changer de direction.
Oui. Vous pensez que le fait que ce qui me semble nous caractériser, entre autres, ce qui caractérise cette civilisation, c'est la possibilité de communiquer ensemble. Nous avons les moyens de communication. Nous avons les journaux, nous avons la radio, nous avons la télévision, nous avons les masses médias, comme on appelle ça, les masses communications, les masses informations. Est-ce que vous croyez, et nous tolérons un très grand nombre de critiques à notre société, à notre façon de vivre, à notre façon d'être? Est-ce que vous ne pensez pas que déjà c'est aussi un élément positif, le fait même que nous nous critiquons pratiquement, quotidiennement, sans arrêt, toujours?
Oui, je crois, en effet, c'est quelque chose de positif, mais il faut aussi que la critique porte. Il y a aussi beaucoup de critiques qui ne portent pas. C'est une critique, c'est une espèce de ventile, c'est-à-dire c'est un échappatoire. Mm-hmm. Alors la critique qui est seulement un échappatoire n'est pas assez. Il faut que la critique changer quelque chose. Et là, il y a évidemment des oppositions très très fortes. Il y a aujourd'hui beaucoup de gens qui disent critiquer toujours, mais ça ne nous regarde pas au fond. Nous continuons dans notre voie. Et je crois que c'est là un grand danger, c'est-à-dire la communication qui fait comme si elle était de la communication et ce n'est pas une vraie communication.
C'est seulement une espèce de soupape de sécurité qu'on tolère.
C'est ça, soupape de sécurité, c'est ça.
Oui. Mais vous ne croyez pas que, d'autre part, il y a une jeunesse aujourd'hui qui a pris une attitude très critique face à tout ce que les générations précédentes ont provoqué, ont créé, ont fait, leur ont imposé comme rythme de travail, leur ont imposé les conditions de vie, motorisé leur vie et tout ça. Il y a de la part de la jeunesse quand même une très forte poussée vers une attitude critique en tout cas en ce qui concerne ce monde. Il y a une certaine force là.
Mon espoir, ça, je crois que cette jeunesse, n'est-ce pas, et comme je disais avant, est en train de changer de route, de changer de direction. Et ça, c'est mon grand espoir, c'est-à-dire qu'il n'y a plus cette espèce d'optimisme béant, cette euphorie de la technologie de plus en plus forte et de plus en plus grande. Et là, il y a un commencement d'effort, de pensée, de renouvellement de pensée et de renouvellement de style de vie qui est très important.
Vous êtes, vous, souvent en contact avec la jeunesse. Je sais que vous vous obligez, ça va de soi que vous vous renseignez en permanence sur l'ambiance qui règne chez les jeunes, les pourquoi de leurs attitudes, vous allez les questionner, vous les écoutez. Je sais que vous êtes un ami de la jeunesse. Je sais que vous les fréquentez beaucoup. Vous allez à leur festival. Je me rappelle une fois à Salzbourg, je vous ai vu, vous étiez en train de partir pour une grande fête de la jeunesse. Alors, je pense que c'est quand même... vous êtes là très bien placé pour me dire. Quelles sont les forces? Où sont les forces négatives? Les forces qui ont, par exemple, été utilisées pour faire des guerres? Les forces qui... Où sont ces forces? Est-ce qu'ils sont dans les motocyclettes? Ou est-ce que la jeunesse est en train de s'orientaliser? Disons qu'elle cherche, par exemple... Je sais qu'aujourd'hui, il y a une tendance chez la jeunesse... Bon, ça concerne une minorité, mais on préfère... On préfère le hash, par exemple. Et on dit non à l'alcool, en quelque sorte. Les jeunes disent un peu non à l'alcool. L'alcool me semble être aussi une forme de drogue qui est plutôt une drogue violente. Et le hash est une drogue non violente. Est-ce que ce n'est pas une valeur indicative, le fait même que la jeunesse aujourd'hui cherche des drogues, au fond, l'endormant, cherche des drogues ou est à la recherche d'un moyen de stimulation qui ne la stimule pas, au fond, en tout cas dans l'action matérielle. mais qui la stimule.
C'est pas s'il y a des gens qui prennent le H, c'est qu'ils vivent dans un monde qui devient de plus en plus invivable. Il y a certains types, n'est-ce pas, qui se retirent, qui disent « je préfère rêver » et ils prennent des drogues de rêve. Je crois qu'il y a d'autres jeunes, n'est-ce pas, qui disent « il faut changer le monde », qui développent leur propre style de vie, qui se mettent ensemble, qui forment des communes, qui ont des projets d'ensemble, en dehors des voies qu'on connaît déjà aujourd'hui. Et c'est là, je crois, ça, c'est-à-dire, moi, je dirais, ce qu'on appelle la jeunesse marginale, c'est là qu'il y a le commencement d'un autre futur, dans ce qu'on appelle les marginaux. Mais pas dans les rêveurs. C'est-à-dire, j'aime les rêveurs qui forment des nouveaux concepts, qui forment de nouvelles visions. Mais le rêveur qui est un rêveur égoïste, si on veut dire, qui se retire dans son petit jardin d'imagination et de fantaisie, lui, il ne va pas, moi je le comprends très bien, mais je crois qu'il ne va pas changer les choses, il est perdu pour ce grand mouvement de changement.
Oui, c'est une pensée assez pessimiste, là.
Je ne suis pas pessimiste.
Non, là, juste, vous jugez ça pessimistiquement.
Il y a une minorité active et agissante. Oui. Mais les jeunes, et je compte sur eux, je crois que chacun de ceux-là a, disons, 5 fois plus de poids que les autres qui ne font pas grand-chose.
Oui. À présent, il y a dans la jeunesse un mouvement qui tend vers... vers la motocyclette me paraît répandu énormément. Qu'est-ce que c'est? Quelle est la signification de la motocyclette? Qu'est-ce que vous avez, vous, découvert à ce sujet?
Je crois que c'est un peu... on a le sentiment qu'on est libre, qu'on peut arriver à quelque chose, n'est-ce pas? La plupart des jeunes se butent tout le temps à des obstacles. Et avec la motocyclette, ils ont, pour une fois, ils ont l'impression d'être sur une voie sans obstacle. Ce qui est d'ailleurs une illusion, parce que là, il y a aussi des obstacles. Oui. Et très souvent, ils se butent à des obstacles et ils se tuent. N'est-ce pas, je crois, la motocyclette aussi, c'est une forme motorisée de hache.
Oui, aussi, ou une forme un peu suicidaire de drogue.
Oui.
Est-ce que le suicide actuel... Est-ce que le suicide est une force ou une faiblesse?
Je crois que le suicide est une faiblesse. Il y a certainement des hommes chez lesquels c'est une force parce qu'ils ont beaucoup réfléchi. Ils font ça comme la fin d'une certaine pensée. Ils arrivent au suicide. Il y a un ami à moi, Jean Améry, vient d'écrire un livre magnifique sur le suicide, où il décrit le suicide comme un acte de quelqu'un qui est très fort, qui n'a pas peur de la mort. Mais je crois, dans la plupart des cas, le suicide, c'est l'expression d'une défaite, c'est l'expression d'une faiblesse. Mais je dis justement aujourd'hui, je comprends très bien que beaucoup de gens veulent quitter la course parce que la course est devenue très souvent très très dure et ça demande beaucoup trop de force. C'est vraiment injuste si on fait des reproches à ceux qui ne peuvent pas tenir le coup parce qu'on les soumet à des épreuves impossibles.
Oui. Moi, je pense personnellement une chose. Je pense... Oui, vous m'entendez?
Oui.
Je pense une chose, comme ça. C'est pas une pensée, c'est un... J'ai une intuition que notre monde, du fait même qu'il a, disons, toléré cette critique que vous avez dit, ça peut aussi être obscurant, de l'obscurantisme, ça peut être une soupape de sécurité seulement. Cette critique permanente qui est lisible, d'ailleurs, on peut pas, elle est là quotidiennement. On peut ouvrir un journal où on veut, on entend et on lit et on écoute partout des prises de vue critiques à tous les sujets, que ce soit au sujet du béton, que ce soit au sujet de couper un arbre, que ce soit au sujet de la surmotorisation, on en entend partout. Pensez-vous pas, et moi je le pense, que ça constitue une force nouvelle et qui n'a jamais existé. Qui est possible avec le phénomène de l'information. Ça n'a jamais été possible d'avoir une attitude critique avant. C'est quelque chose de tout nouveau, il me semble.
Moi, je serai avec vous. Je crois que c'est une force très importante. Mais c'est un peu... Moi je dirais que la critique, c'est seulement le premier pas. C'est pas, mais ça ne suffit pas de savoir que quelque chose ne marche pas. Il faut aussi développer de l'imagination. Il faut ce que j'appelle développer de l'imagination sociale. Nous avons eu beaucoup d'imagination technologique dans les 20 ou les 30 ans qui sont passés, mais nous avons eu très peu d'imagination sociale, c'est-à-dire des nouvelles formes de vie, des nouvelles formes de famille, des nouvelles formes d'habitation, des nouvelles écoles, des nouvelles formes de vivre ensemble dans l'usine, à l'usine, des nouvelles formes de production. C'est dans cette direction-là que se dirigera l'imagination, c'est-à-dire la critique sera suivie de plus en plus de visions, de nouveaux concepts, de nouveaux projets. C'est ce que j'espère au moins.
Oui. Vous ne pensez pas que la technique elle-même nous fait la révolution? Vous ne pensez pas que la technique, elle est révolutionnaire en soi?
Je crois dans un sens, oui, mais je ne suis pas sûr que la technique que nous subissons aujourd'hui, que ce soit la bonne révolution. Moi, je rêve, et je ne suis pas le seul maintenant, d'une technologie tout à fait différente. Vous savez très bien qu'on parle de plus en plus de technologies douces ou de technologies alternatives. Nous sommes dans un moment où il y a un nouveau style technologique qui se développe. Et moi, j'enseigne à une université technologique et j'ai dit toujours à mes étudiants, vous avez une très grande chance parce que vous allez humaniser la technologie. La technologie que nous avons eue jusqu'à maintenant, c'est une technologie brutale, c'est une technologie qui ne peut pas jouer. Et c'est d'ailleurs ce qui m'a attiré vers les créations de gens. C'est qu'il a inventé des machines qui pouvaient jouer, qui pouvaient rire d'eux-mêmes, qui ne se prenaient pas trop au sérieux. Ça a été un grand changement, je crois. Ça a été une révolution intellectuelle à un moment, il y a déjà 20 ans, où ça a commencé, où avant tout, la machine, c'était un dieu. C'est quelque chose qu'on prenait trop au sérieux. Au moment où on commençait à rire, où on montrait des machines qui tournaient à vide, c'était un très grand pas en avant, et maintenant, nous commençons d'inventer une technologie tout à fait différente, petite, pas grande, douce, pas forte, et c'est là justement ce changement dont je parlais au commencement.
Est-ce que vous ne croyez pas que les ingénieurs ont été nos grands révolutionnaires, en fait, et que la pensée de l'homme... Quelle est la contribution de la pensée de l'homme? Quelle est la position des philosophes comme Jean-Jacques Rousseau par rapport à l'acte et la position d'un Leibniz ou d'un von Guericke qui, vous savez bien vous-même, ont été des hommes qui ont créé et inventé la machine avec le français Denis Papin dans le but et avec l'idée de libérer l'homme de l'esclavage?
Ça n'a pas vraiment tout à fait libéré l'homme parce que la machine et les ingénieurs ont suivi les ordres des gens qui n'étaient pas nécessairement des ingénieurs et des gens de technologie. C'était des hommes d'affaires qui ont voulu créer des machines pour faire le plus efficace possible, pour faire des profits, pour gagner beaucoup de sous. Et je crois que ça a changé la direction de la technologie. La technologie a été une technologie à sous, une technologie pour se faire payer, pour vraiment gagner beaucoup d'argent. Et je crois une nouvelle technologie, c'est-à-dire je crois que vraiment les ingénieurs, c'est quelque chose de magnifique. La technologie, c'est une très grande chose, mais il faut l'orienter vers des buts sociaux. Il faut faire une technologie pour l'homme et pas une technologie pour le profit.
Merci Robert Jungk, merci, au revoir, à bientôt. Jean Tinguely, un commentaire à cette conversation avec Robert Jungk.
Je réfléchis sur ce que a dit Robert Jungk. Oui, les ingénieurs sont magnifiques et évidemment ils ont parfois des problèmes idiots comme ils sont obligés à résoudre. Ils sont obligés de résoudre des problèmes pourtant peu importants comme comment fabriquer 300 millions bouteilles de Coca-Cola au mois. C'est tellement insignifiant, une chose comme ça. Je sais pas, je voudrais prononcer, ils sont obligés de fabriquer en, en 300 millions d'exemplaires par semaine, une boisson non alcoolique brune, idiote. Et ils doivent rationaliser sans arrêt ce sujet, ils doivent trouver des nouvelles méthodes de fabrication, ils doivent mettre en quelque sorte tout leur génie à la merci de gagner plus d'argent avec la même camelote. C'est parfois bien triste, je suis un peu d'accord avec Robert Young, j'y avais pas pensé. C'est vrai qu'il n'y a pas seulement des jolis côtés, leurs occupations sont souvent aussi très ternes et sans intérêt.
Alors, est-ce que l'ingénieur libéré, c'est l'artiste?
Alors, au fond, c'est là où Denis Papin et von Guerra, qui sont des artistes, en quelque sorte, parce que c'est les inventeurs, les rêveurs, les poètes parmi les ingénieurs, et nos grands pionniers du 19e, c'est certainement tous des hommes qui ont l'attitude de l'artiste. Et aujourd'hui, évidemment, il y a des générations d'ingénieurs qui sont des ingénieurs peut-être un peu moins artistiques, mais beaucoup plus efficaces et beaucoup plus technocratisé, beaucoup plus rationaliste, et à la merci des capitalisateurs qui leur demandent des résultats d'une efficacité immédiate et des résultats parfois bien, bien tristes.
Le crocodrome de Ziguepus, qui a été le point de départ de cet après-midi, va fonctionner encore pendant 8 mois environ au Centre National d'Art et de Culture Georges Pompidou à Paris. Mais déjà, Jean Tinguely, vous travaillez sur un autre chantier.
Eh bien, j'ai fait des fontaines. 8-9 fontaines qui sont réunies ensemble, qui sont... j'avais le vocabulaire prêt, mais on m'a donné des conditions parfaites. C'est-à-dire, j'ai pu donner la dimension du bassin. Le bassin n'est pas profond, il est grand. L'eau est noire, je l'ai noirci. Les machines, les fontaines, eux, matériellement, sont noires. Et tous les gicleurs, il y a tout un vocabulaire, tout un jeu, toute une palette de giclage possible. Mm-hmm. J'ai fait jouer ça ensemble. Il y en a qui font des mouvements très drôles. J'ai fait 3 fontaines drôles. J'en ai fait 6 qui sont plutôt majestueuses, plutôt bien, plutôt japonaises, parce que des mouvements orientaux. Lents, pas énervants, stabilisant, mais c'est plein de mouvements, plein d'attractivité. Et il y a les jeux de lumière la nuit, il y a les jeux de lumière du mauvais temps, et il y a les jeux de lumière de l'éclairage artificiel, et il y a le soleil. Quand il rentre là-dedans, et il distribue d'une façon somptueuse des arcs-en-ciel, c'est superbe. Et il y a la joie des gens, il y a juste l'eau qui bouge, tu sais, c'est une force physique, l'eau est très séduisante, elle n'est pas stagnante, l'eau, elle est vivante. Et c'est tout simplement une chose que j'ai fait bien. Voilà, on réussit parfois à faire des choses.
Et où est-ce que ce sera mal?
C'est devant le théâtre, l'emplacement de l'ancien théâtre, là où il y avait la scène de l'ancien théâtre, et le nouveau est à côté. Alors il fallait faire quelque chose. Et le gouvernement balois m'a demandé de faire un truc, et je l'ai fait. Et j'ai eu tout à fait la main libre, je n'ai même pas fait de maquette. Je me suis mis au travail, j'ai rêvé, je me suis beaucoup bagarré avec l'architecte, je me suis défendu pour chaque centimètre de ma fontaine. Et j'ai fait un truc immense qui est au moins 8 fois aussi grand que cette salle, avec ces jolies machines au milieu qui se jouent de tout. Et tu vas te marrer quand tu vas les voir.
C'était l'invité du lundi, Jean Tinguely, une émission proposée par Pierre Descargues et Sylvie Andreu, diffusée pour la première fois dans une après-midi de France Culture le 27 juin 1977. Vous pouvez la réécouter ou la télécharger en ligne sur le site franceculture.fr à la page des nuits.